Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Sénégal, ouverture ce mardi à Dakar du procès en appel du maire de la capitale sénégalaise, Khalifa Sall, condamné en première instance à 5 ans de prison ferme et à payer une amende de 5 millions de francs CFA, soit plus de 10 000 dollars. De Dakar, notre envoyé spécial Abdourahmane Dia.
C'est un regain d'espoir chez les partisans du maire de la capitale après le verdict du 30 mars qui les avait plongés dans le désarroi. Et c'est le président de la cour d'appel, le juge Demba Kondji, qui hérite de ce dossier dit de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Khalifa Sall, qui est par ailleurs élu député, mais n'a toujours pas siégé au Parlement à cause de son arrestation puis sa condamnation, est reconnu coupable dans une affaire de fausse facturation impliquant 7 autres employés de l'institution. 2 ont par la suite été relaxés. Khalifa Sall a toujours nié ces accusations et ses partisans soupçonnent une manœuvre politique visant à l'écarter de la course à la présidentielle de l'an prochain, même s'il n'a toujours pas annoncé son intention de se présenter. Les avocats de l'idylle de la capitale espèrent que la cour d'appel blanchira leur client ou tout au moins lui accorder la liberté provisoire. Abdourahmane Dia, Dakar, VOA Afrique.
Au Niger, au moins 9 personnes ont été tuées dans une série d'attentats suicides hier soir à Difa, dans le sud-est du pays, non loin du Nigeria. 3 kamikazes, 2 jeunes femmes et un homme ont fait exploser leur ceinture d'explosifs en différents points de la ville. L'une des cibles était une école coranique située dans un quartier populaire. Les forces de sécurité ratissent Difa pour la sécuriser et les lieux de l'attentat ont été bouclés. Ces attaques interviennent alors que le président nigérien Mahamadou Issoufou a entamé hier une tournée en Europe. Il était tout d'abord à Paris et à son programme aujourd'hui une visite à Bruxelles. Les attentats de lundi soir font suite à plusieurs mois d'accalmie dans la région d'Ifa, théâtre depuis février 2015, de nombreuses attaques du groupe djihadiste nigérien Boko Haram. Au Nigeria même, les autorités traquent 182 détenus qui se sont évadés d'une prison dans le centre du pays. Ils ont pris le large après que des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur l'établissement pénitentiaire. Morgan Guiriek.
D'après Abdourahmane Dambaza, ministre nigérian de l'Intérieur, sur les 210 prisonniers qui se sont échappés, 28 ont été repris et 182 sont toujours en fuite. L'attaque s'est produite tard dimanche à la prison de Mina, capitale de l'État du Niger. Les gardiens ont été maîtrisés par les assaillants et les prisonniers ont pu prendre le large. Des évasions arrivent souvent dans les prisons nigérianes surpeuplées. Des bandes criminelles attaquent les établissements pénitentiaires afin de sortir leurs complices. En novembre 2014, un groupe d'hommes munis d'explosifs avait attaqué la prison de Cotton-Carfé dans l'état de Kogi pour libérer 132 détenus. En 2012, la même prison a été attaquée par des hommes armés qui avaient libéré une centaine de prisonniers. Le groupe Boko Haram avait revendiqué cette attaque.
En Côte d'Ivoire, le deuxième mandat du président Alassane Ouattara s'achève en 2020 et le chef de l'État n'exclut pas d'en faire un troisième. Il estime en effet que les mandats effectués avant le changement de constitution de 2016 ne comptent pas. L'opposition ivoirienne n'a pas tardé à réagir. Elle a affirmé que cette idée du chef de l'État est anticonstitutionnelle, inacceptable et irréalisable. Écoutons le politologue André Silver Conan.
Si ces élections ne comptent pas, sur quelle base ils gouvernent actuellement? Il y a dans le vote d'une constitution ce qu'on appelle la lettre et l'esprit. Dans l'esprit, avant l'adoption de la nouvelle constitution en 2015, le président Alassane Ouattara s'était clairement exprimé dans le sens qu'il n'était pas intéressé par un troisième mandat et que la disposition précise sur la limitation des mandats ne serait pas concernée par la nouvelle constitution.
L'analyste politique ivoirien André Silver Conan. Au Burkina Faso, le collectif citoyen pour l'agroécologie s'oppose à la volonté du gouvernement d'introduire des moustiques génétiquement modifiés dans le pays pour lutter contre le paludisme. Le groupe a organisé samedi dernier une manche meeting à Ouagadougou pour présenter ses arguments. Les explications du porte-parole du collectif citoyen pour l'agroécologie, Ali Tabsoba.
Vous savez très bien qu'en modifiant le génome du moustique, on a la possibilité de changer son caractère. Et en changeant son caractère, il se peut que désormais le moustique héberge d'autres maladies qui ne sont plus le paludisme. La deuxième raison, c'est une raison écologique. Le simple fait d'éliminer cette espèce va engendrer un vide écologique. Et ce vide écologique risque d'être occupé par d'autres espèces et ça peut créer un sérieux problème dans le son équilibre alimentaire. La troisième raison, c'est la question même de la dépendance. Cette technologie qui n'est pas maîtrisée, dont le transfert de compétences n'est pas total auprès de nos braves chercheurs, va de soi que les firmes qui la maîtrisent vont désormais tenir à bout le Burkina et les pays africains par rapport à la lutte contre le paludisme. Nous ne pouvons pas accepter. La quatrième raison, c'est une récente question éthique. Pourquoi prendre 37 milliards pour faire un saut vers l'inconnu quand il y a des méthodes endogènes à côté? Mieux vaut mettre l'accent sur une politique d'assainissement d'hygiène à la portée de nos populations.
Ali Tapsoba, porte-parole du collectif citoyen pour l'agroécologie, joint à Ouagadougou au Burkina Faso.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires ont annoncé la fin de la campagne de vaccination contre le virus Ebola. L'épidémie qui s'est déclarée le 8 mai dernier a déjà fait 25 morts. Marie Benson.
Selon le ministère congolais de la Santé, toutes les personnes ciblées par la vaccination contre le virus Ebola ont été vaccinées. Le 21 mai dernier, l'OMS avait très vite réagi pour contrôler l'épidémie en envoyant en RDC plusieurs milliers de vaccins. Plus de 1000 personnes ont été vaccinées, la plupart à Mbandaka, l'une des villes les plus peuplées dans l'ouest de la RDC. L'épidémie, qui a été déclarée le 8 mai dernier, a causé 25 décès sur 53 cas confirmés ou suspects. C'est la 9e fois que la RDC est touchée par une épidémie de fièvre hémorragique Ebola depuis l'apparition de cette maladie sur le sol congolais en 1976.
À Madagascar, le président Irajonar Mampiane a nommé Christian Sai comme nouveau premier ministre. La Cour constitutionnelle avait donné une semaine au président malgache pour nommer un nouveau gouvernement de consensus dans l'espoir de sortir le pays de la crise politique en cours depuis plusieurs semaines. Pour un profil du nouveau chef de gouvernement malgache, Idriss Fall a joint à Antananarive notre confrère Randy Doni.
Le nouveau premier ministre s'appelle Christian Tsai. Il vient du nord de l'île, plus précisément de la ville d'Ambiloubé. Il était déjà ministre du tourisme. Et puis, il est aussi apparenté au temps du président Ravalomanana. Une ministre qui s'appelle Manuruanta Cécile, c'est le frère de Manuruanta Cécile, qui était déjà ministre de l'enseignement supérieur et ministre de la Défense au temps de Ravalomanana. Disons qu'il n'est pas très connu du grand public. C'est un technicien assez apprécié. Il était le représentant du Bureau international du travail pour l'océan Indien. En 2016, il a obtenu le prix du leadership. Avant cela aussi, il était directeur général de Secren, le chantier de construction navale à Diego Suarez. Il était aussi directeur général de la Solima, c'est-à-dire l'ancien organisme qui s'occupait du pétrole à Madagascar. Bref, c'est quelqu'un qui a déjà une assez longue carrière. Il n'est pas très, très connu sur le milieu politique.
Justement, comme il n'est pas connu sur le milieu politique, on lui demande de former un gouvernement d'union. Est-ce que sa tâche sera facile?
Je veux dire, il n'est pas très connu du milieu public, mais il est connu du milieu politique en tant que technicien. Ceci dit, sa tâche ne sera pas facile, bien sûr, parce que en ce moment, c'est un peu le bazar, hein. Donc tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Ceux qui sont en grève dans l'opposition au 13 mai, qui dit nous, on est la majorité, donc on veut avoir la majorité aussi, donc au sein du gouvernement. Et puis ceux qui sont avec le président actuel, Eri Rajonar Mapiane, qui veulent aussi garder leur... Mais avant tout ça, il faut dire que quand la nomination a été faite, le président Eri Rajonar Mapiane a dit que c'est le fruit d'un consensus. Alors qu'en ce moment, on se demande encore un peu, est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que apparemment, la base, hein, les militants de base du 13 mai... 13 mai, c'est la place où les grévistes se réunissent quotidiennement. Apparemment, ils ne sont pas très au courant du nom. Donc, est-ce que c'est un consensus décidé en haut lieu? Il y en a qui parlent de fortune, mais je ne crois pas trop. Hein.
Donc, c'est dire qu'en fait, Madagascar n'est pas encore totalement sorti de la crise depuis plusieurs mois alors.
Comme dit le proverbe malgache, il ne faut jamais siffler avant de sortir de la forêt. Alors, on est encore dans la forêt. On commence à percevoir la lumière hein, du jour, la clairière, mais il ne faut pas encore siffler, il faut encore attendre. En ce moment même, les dirigeants du MAPAR, c'est-à-dire ceux qui sont avec le président de la transition, André Duel, ils sont en conclave maintenant. On ne sait pas trop ce qui va en sortir, Donc, on attend un peu, disons, on va attendre demain, parce que tous les jours, il y a la grève, il y a le meeting sur la place du 13 mai. Donc, c'est là, certainement, qu'on va savoir leur réaction, ce qu'ils en pensent.
Randy Doni, journaliste à Antananarivo, à Madagascar. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.